Sans plus tarder, j'ouvre ce colloque parce que, comme vous avez pu le constater, on a un programme très serré. Ce colloque a été co-organisé par moi-même, par Claude Rapin, du CNRS, du laboratoire d'archéologie de l'École normale, et par Youri Kariev, également du même laboratoire, tous deux mes collaborateurs sur la fouille de Samarcande. Youri est actuellement sur son vélo, étant donné les circonstances, il arrive de la banlieue sud, il a 35 km à faire, mais je lui fais confiance, il les fera. Il va arriver probablement en retard. Alors, pourquoi avoir choisi de consacrer un colloque à un pays dont pratiquement jamais personne n'a entendu parler? Ça mérite une petite explication. Alors, l'Oustrouchana, c'est un très beau pays. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller en Ouzbékistan ou au Tadjikistan, allez-y. Je recommande à tout le monde. C'est un ravissant pays de pâturage. D'ailleurs, étymologiquement, c'est très probablement ça que ça veut dire, le pays des pâtures. C'est une région qui est restée très peu modernisée. Au bazar d'Ouratioubé, on trouve de superbes couteaux. Les vestiges archéologiques qu'on visite sur place sont stupéfiants. Ce qu'on voit au musée archéologique de Douchanbé. En même temps, c'est un tout petit pays, à peine grand comme deux départements français. Les limites s'en sont d'ailleurs tardivement définies. D'ailleurs, il en sera question dans plusieurs des exposés. Et c'est un pays qui s'est trouvé longtemps en situation de marge extrême. Et ça n'est pas par hasard que c'est là où Alexandre a fondé Alexandrie Escatée, c'est-à-dire Alexandrie extrême, Alexandrie du bout du monde. C'était le bout du monde. C'était la limite de l'Ocoumène, le monde, disons, civilisé des anciens, la limite extrême face au front des steppes. Le seul engagement militaire qu'a connu l'armée d'Alexandre contre les sites des steppes s'est déroulé ici. Dans quel lieu? Alors là, ça fait l'objet de discussions très serré, mais il y a eu des avancées et vous entendrez donc par Claude Rapin les dernières théories qu'on peut proposer sur la localisation des grands lieux de l'expédition d'Alexandre. Alors, qui avait entendu parler de la Sogdiane? Les gens, en généralement, ont entendu parler, surtout depuis quand même un certain temps, il y a beaucoup de choses qui sortent. L'Oustrouchana, qui en avait entendu parler avant ce matin? Uniquement les historiens de l'islam ancien. Pourquoi? Parce que l'Oustrouchana s'est trouvé sous les feux de la rampe à Bagdad en 800, dans les années 830-840. Les élites militaires et aristocratiques de ce pays ont été, pendant une certaine période, disons une vingtaine d'années, plusieurs décennies, l'ossature de l'armée du calife, avant que les califes ne se résolvent à recourir plus massivement à des soldats esclaves d'origine turque qui ont été à l'origine du système des Mamelouks. L'homme fort du califat à l'époque du calife Al-Mutasim, c'est Haydar Afshin. Haydar, c'est son nom islamique. Afshin, c'est son titre, ça veut dire tout simplement le roi d'Oustrouchana, qui commandait les troupes d'Oustrouchana et les armées du calife, notamment sur le front de Byzance, dont la chute, il était évidemment devenu tellement indispensable qu'il ne pouvait que tomber, et sa chute en 840 s'est accompagnée d'un procès retentissant dont on a dit qu'il était, à juste raison d'ailleurs, que c'était déjà un procès stalinien. En dehors de cela, Peu de gens donc avaient entendu parler de l'Oustroushana. Il faut dire aussi que la séparation politique moderne de ce pays entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan n'a pas facilité non plus l'émergence d'un tableau unifié et cohérent. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés, tous les trois et quelques autres, à lancer cette idée d'un colloque sur l'Oustroushana? C'est d'abord la venue espérée des peintures murales de Shahristan, capitale de l'Oustroushana, ou du moins résidence royale, à l'occasion d'une exposition qui est en train de se négocier. On espère que ça aboutira au musée, pour le musée Guimet, à Paris, assez bientôt, en fait, dans un an. Ces peintures, dont vous allez voir d'abondants extraits pendant ce colloque, et qui sont d'une qualité artistique absolument stupéfiante, ces peintures ont été exécutées dans un lieu privilégié, à un moment charnière. Elles décoraient le palais des Afshin, des rois d'Oustroushana, et elles ont sans doute été exécutées à la génération qui a juste précédé l'islamisation. C'est-à-dire, c'est probablement, sous le règne du père de Haïdar Afshin, on a quelques arguments pour cela, qu'elles ont été exécutées. Donc c'est vraiment le moment où l'histoire de ce pays bascule et où il s'intègre finalement à la Transoxiane, qui va être la Transoxiane des Samanides. Alors il se trouve que ces peintures et à côté d'elles les autres éléments du décor remarquables de ces palais, notamment les sculptures sur bois, font actuellement l'objet d'avancées interprétatives. Et au départ, ça a été cela, la motivation de l'organisation du colloque. Et donc, à peu près la moitié des communications qui seront présentées aujourd'hui porteront sur ces ensembles de décors. Mais évidemment, avant le palais des Afshin, il y a eu un avant, en Oustroushana, il y a eu un après. Sur lesquels nous avons également estimé qu'il y avait à dire du nouveau. Ce colloque va être conduit dans un ordre globalement chronologique. Alors, comme je ne veux pas, je veux donner l'exemple de la brièveté et de la sobriété, je vais tout de suite passer à quelques considérations pratiques. Bon, vous pouvez constater que le programme est très serré, parce qu'il se trouve en fait que le taux de réponse positive à nos invitations a beaucoup dépassé nos attentes. En fait, tous les gens auxquels nous nous sommes adressés ont accepté de venir communiquer, et également ceux à qui nous avons demandé de présider des séances et que nous remercions vraiment d'apporter ici également leur autorité scientifique. Il y a eu une seule défection, mais ce qui n'est pas du tout du fait du communicant, c'est la défection de notre ami Mourtarkul Parzaïev, archéologue de l'Ouzbékistan et l'un des deux grands spécialistes en Ouzbékistan de l'archéologie de l'Oustroushana, avec Alexei Gritsina, qui lui a pu venir. Parzaïev, au dernier moment, n'a pas pu venir parce que les délais étaient trop courts pour qu'il obtienne un visa de sortie. Et oui, il y a des visas de sortie encore dans certains pays et on peut quand même espérer que cette pratique d'un autre âge va bientôt disparaître. Nous avons fait le choix d'accepter toutes les propositions et nous avons fait également le choix de ne pas étendre le colloque sur 2 jours. Ça aurait été particulièrement difficile en cette période de grève des transports. Il n'est pas évident de déplacer les gens. Donc nous tenons tout sur 1 journée. Alors, donc, nous en appelons à la discipline des communicants pour ne pas dépasser leur temps de parole de 20 minutes suivies de 10 minutes de discussion. Ça permettra de laisser du temps aux pauses favorables aux échanges informels et également à une discussion générale en fin de journée. Nous en appelons également à l'inflexibilité des présidents de séance qui sont instamment prier de passer des signes courtois aux communicants qui commenceraient à dépasser leur temps de parole et quelques minutes auparavant de leur faire passer des petits papiers. En Allemagne, on coupe le micro, et puis voilà, non, on va faire les choses d'une manière plus, plus civile. Alors, pour la même raison de manque de temps, il n'y aura pas donc de traduction. Nous avons renoncé au système des traductions simultanées, qui de toute façon est très lourd, prend beaucoup de temps et donne assez rarement des résultats satisfaisants. Le colloque sera en fait, les échanges et les communications seront en trois langues, anglais, français et russe. Certains de nos collègues sont purs russophones. Enfin, l'un de nos collègues, et également Pardaïev, s'il était venu, enfin, lui aussi, il pouvait faire en ouzbek, mais évidemment, ça aurait été encore moins accessible. Ce que nous avons choisi de faire, c'est que les communications en russe, sauf l'une d'entre elles, celle de notre collègue Semyonov, qui n'a pas pu être prête à temps, ont été traduites en français ou en anglais, et elles vous ont été distribuées. Donc, vous pourrez suivre, ces communications seront présenté en russe, mais vous pourrez les suivre, et vous pourrez suivre les PowerPoint d'après les versions qui vous ont été distribuées. Voilà, je pense que j'en ai dit assez, donc, sans plus attendre, j'invite Lauriane Sève à présider la première séance.